Notre bien commun. Votre émission sur la doctrine sociale de l'Église.
Dans le cadre de la présentation de la doctrine sociale de l'Église, commencée il y a un an, la formation diocésaine ouvre aujourd'hui un cycle de 4 émissions sur l'écologie intégrale et l'encyclique Laudato Si, Loué sois-tu, du pape François. Monseigneur Camiade est présent pour cette première émission. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Bernard.
Voilà, vous allez nous aider à situer cette encyclique, à en comprendre le message et les enjeux. Avant de vous proposer quelques questions, je me présente donc Bernard Miguerou, membre de la petite équipe de la formation diocésaine. Voilà, nous sommes donc en place. Voilà, Laudato Si, une parole de l'Église sur la crise écologique et environnementale. Cette parole était attendue, l'encyclique a été publiée en 2015. Le sujet est grave, d'une importance majeure pour l'humanité d'aujourd'hui et de demain. Le pape François est fidèle à l'esprit de la doctrine sociale de l'Église depuis Léon XIII, éclairer les hommes de bonne volonté, à la lumière de l'Évangile, sur des questions fondamentales et d'actualité. Alors, Père évêque, première question. Laudato Si traite de la crise écologique. Donc, on parle de crise, donc on s'attendrait à un titre évoquant cette crise et l'urgence où nous nous trouvons. J'allais dire un titre un peu anxiogène. Alors, on tombe sur ce titre, « Loué sois-tu, Laudato Si ». Cela peut surprendre peut-être. Que veut nous dire le pape François en choisissant justement ce titre ?
Précisément, je pense qu'en posant la question, vous devinez déjà la réponse, parce qu'il veut susciter en nous cet émerveillement du cœur qui est l'attitude juste en fait devant la création, même si il y a une crise, c'est pas le tout de la réalité. Il y a d'abord à s'émerveiller, à revenir au cœur de la question de notre environnement, de notre maison commune, de tout ce qui nous est donné. Voilà, et il veut nous ouvrir aussi à Dieu. Loué sois-tu, ça s'adresse à Dieu. Le « tu », c'est le « tu » de notre relation à Dieu. C'est important, et on y reviendra sans doute, que l'homme arrive à comprendre qu'il n'est pas seul au monde, qu'il est dans une relation, il est invité à entrer dans une relation avec Dieu, un « tu », « loué sois-tu ». Voilà, l'homme n'a pas à s'enfermer dans sa bulle de ses propres projets. Il faut éviter ce qu'il appelle l'anthropocentrisme. Voilà, et puis il nous invite aussi à entrer ensemble, c'est une invitation à entrer dans un chant de louange, celui de Saint François d'Assise. Laudato Si, c'est de l'italien, c'est souvent le titre des documents romains que l'on dit, soit on le dit en français, mais on a souvent le titre en latin. Mais là, même dans le texte latin, c'est la formule italienne qui est reprise parce que c'est la citation de Saint François dans son Cantique des créatures. C'est un très beau poème, un très beau chant de Saint François et de ses frères. Peut-être on pourra en reparler, mais en tout cas, on peut dire qu'en nous invitant à entrer dans un chant de louange, le pape nous invite peut-être aussi à essayer de nous mettre un peu au diapason de la vie, un peu comme une harmonie. Voilà, l'écologie ne peut pas se nourrir uniquement de convictions scientifiques ou de projets politiques, mais elle doit partir du cœur et d'un esprit d'harmonie, de beauté. Il y a une recherche de beauté à trouver.
Voilà. Et donc, dans cette encyclique, le pape François se situe dans la continuité de la doctrine sociale de l'Église. Alors, on a des repères, on s'y reconnaît. Hein. Il fait appel aux principes fondamentaux comme le bien commun, la notion de bien commun qui est essentielle, et là qui l'élargit au climat, aux ressources naturelles, la subsidiarité. Donc c'est ces grands principes de la doctrine sociale de l'Église que l'on retrouve. Mais il aborde tout de même des territoires nouveaux. Jusqu'ici, la doctrine sociale, c'était quand même le domaine du travail, le domaine du social, le domaine du développement, de l'économie. Et là, il y a cette ouverture à la nature, à la question des limites, qui est quand même nouvelle. L'homme, aujourd'hui, est confronté aux limites. Et à la globalité, à l'unité de tous les problèmes auxquels est confrontée l'humanité. L'homme fait partie d'un tout. Alors, ces questions ont une dimension nouvelle, et le pape François, d'ailleurs, ne mâche pas ses mots. Il y a une grande profondeur dans cette encyclique, mais il y a un grand réalisme. Il ne mâche pas ses mots sur les responsabilités, notamment, des acteurs économiques et politiques. Alors, la question que j'avais envie de vous poser, Père, c'est quelle page nouvelle de la doctrine sociale de l'Église ouvre Laudato si?
Alors moi, je vois deux axes relativement nouveaux. Le premier, c'est déjà l'expression Laudato si, telle que je l'ai commentée tout à l'heure, c'est cette prise de conscience spirituelle. Il ne s'agit pas simplement de rester sur le raisonnement, sur une prise de conscience intellectuelle des choses, ni non plus sur la dimension d'angoisse que vous évoquiez aussi dans la première question, d'entrer plus en profondeur jusqu'au cœur de l'homme. Ça, c'est peut-être pas tout à fait nouveau dans le discours de l'Église, mais c'est avec son charisme propre, il ouvre à tout homme de bonne volonté à cette recherche spirituelle. Il nous invite à cette prise de conscience spirituelle. Et le deuxième, c'est ce qui me paraît nouveau, en tout cas moi, dans ma lecture, et qui m'a surpris la première fois, c'est la part importante en même temps que le pape accorde à la science, à ce que disent aujourd'hui les spécialistes. Et toute la première partie, c'est même long, et au bout d'un moment on se dit c'est presque déprimant, parce que effectivement vous disiez il y a la crise, il y a une prise de conscience profonde et précise de tout ce que nous disent les spécialistes sur la crise écologique actuelle. Et là il y a une écoute en profondeur développée. Toutes les encycliques sociales prennent en compte les réalités, la manière dont c'est analysé, mais souvent de façon très synthétique, avec une énumération d'un certain nombre de points dits de manière assez précise. Mais là, on va beaucoup plus dans le détail de toute la première partie sur les difficultés écologiques, peut-être parce que justement la prise de conscience spirituelle à laquelle le pape nous invite ne peut pas se faire en dehors du réel. Voilà. Et il y a vraiment un appel en même temps à entrer au cœur intérieur de notre compréhension de notre rapport à la création, et une invitation à être dans le réel.
Et le pape François souligne d'ailleurs les côtés positifs que nous apporte et la science d'une part et la technique.
Absolument.
Ce n'est pas une vision, j'allais dire, très, très manichéenne. Les choses sont plus complexes.
Il n'y a pas de pessimisme sur les capacités humaines au fond, mais il y a une prise de conscience réelle aussi des dérapages que nous connaissons aujourd'hui.
Voilà. Et nous savons que le pape François a les pieds sur terre, et Laudato si débute par un état des lieux. Et cet état des lieux, quand même, est à juste titre un cri d'alarme. Le pape a une belle image en parlant de la terre. Il l'appelle notre maison commune. Et il nous dit, cette sœur, la terre, il la nomme notre sœur, ce qui c'est très beau. Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons. Et alors, il y a toute une énumération, effectivement, des grands problèmes environnementaux actuels, de pollution notamment. Et j'ai trouvé qu'il y a une expression frappante et qui résume un petit peu les choses. Le pape évoque au numéro 22 la culture du déchet. Alors la culture du déchet, on a en tête les tonnes et les tonnes de le continent plastique dans les océans. On a en tête la pollution des rivières, la pollution des océans, etc., l'acidification, etc. Tout ça est évoqué, mais le pape va jusqu'à dire que parfois l'homme est traité comme un déchet. Et il y a une image qui me venait en préparant cette question, c'est celle des migrants que l'on jette à la mer et qui se noient. L'homme, finalement, de tels excès que l'homme est lui-même considéré comme un déchet. Alors je crois que cette culture du déchet, ça résume bien un petit peu ce que veut dénoncer le pape par rapport à nos dérives, aux dérives actuelles de notre économie, de notre monde. Qu'est-ce que cela nous dit de la crise que nous vivons ?
Bien, vous avez déjà dit beaucoup. C'est à la fois cette prise de conscience à laquelle on est invité, de regarder l'autre comme un frère. Alors, et en fait, toute créature. Et là aussi, le titre dit beaucoup. Laudato si, loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur, la terre, pour notre sœur, et toutes les créatures dans le cantique de saint François d'Assise sont appelées des frères, des sœurs. Et tout homme aussi est pour nous un frère. Et c'est vrai que si on se comporte avec les choses dans cette culture du déchet qui fait qu'on les prend, on les jette, finalement, on va être porté aussi par habitude à nous comporter de la même manière avec certains de nos frères que, à certains moments, on ne considère peut-être plus comme nos frères. Et donc, si on est capable de jeter les choses, on est capable aussi de jeter ceux avec qui on a plus de mal à fraterniser à certains moments. Et là, il y a quelque chose, il y a un seuil évidemment qui est passé, qui est encore plus grave, mais finalement qui est dans la même logique, dans la même attitude de fond. Je disais tout à l'heure, on peut reparler du cantique des créatures de Saint François. Moi, en lisant cette encyclique du pape, je repensais beaucoup à un petit livre que j'avais lu du père Éloi Leclerc, qui est un franciscain, qui avait écrit un livre qui s'appelle Le soleil se lève sur Assise, où il raconte son expérience quand il a été déporté en Allemagne pendant la guerre. Et bon, ils étaient tout un groupe de franciscains entassés par centaines dans un wagon. Certains mouraient d'étouffement, tellement ils étaient serrés les uns contre les autres, enfin dans des conditions totalement inhumaines de la déportation. Et il raconte comment, dans cette situation tragique, douloureuse, épouvantable, inhumaine, des heures de train pour partir en camp, un frère s'est mis à entonner le cantique, loué sois-tu, le cantique des créatures de Saint François d'Assise. Et il raconte qu'il a réfléchi longtemps pourquoi, et ils se sont mis à le chanter tous, pourquoi ils ont choisi ce chant-là de louange au Seigneur, justement parce que ce chant nous dit « Loué sois-tu pour notre frère, pour notre sœur, la terre, la mer, et chacun de nous, nous sommes des frères et des sœurs. » Au moment où l'homme est capable de la déshumanisation la plus horrible, eh bien, il est bon de se rappeler qu'en fait nous sommes tous frères et que toute créature est frère ou sœur. Et donc on n'est pas dans une culture du déchet, de la déportation, du mépris d'une catégorie de la population, mais on doit retrouver cette culture de la fraternité beaucoup plus profonde, quoi, et avec toute créature.
Voilà. Et, Père Évêque, le chapitre 2 de Laudato Si s'intitule « L'évangile de la création ». Alors, le pape François nous replace face à cette réalité « Tout est donné ». C'est un des leitmotifs de cette encyclique. « Tout est donné. L'homme, la nature viennent de Dieu ». Et le pape François nous dit que malheureusement, je cite là, le numéro 66, « L'harmonie entre le Créateur, l'humanité et l'ensemble de la création a été détruite par le fait d'avoir prétendu prendre la place de Dieu en refusant de nous reconnaître comme des créatures limitées. » Alors j'allais dire que l'humilité est à rebours un peu de notre mentalité actuelle. L'homme qui se veut maître de tout, n'avoir besoin de personne pour décider de son avenir, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un message fort à refaire découvrir ou à faire découvrir à nos contemporains qui en sont très éloignés? Se reconnaître créé, qu'est-ce que cela signifie? On est au cœur, là, je crois, de l'encyclique.
Oui. Mais en fait, on peut se poser la question d'où vient la dignité de l'homme? Est-ce que c'est l'individu qui se donne à lui-même sa propre dignité? Ou est-ce qu'elle vient d'un autre? Est-ce qu'on la reçoit de Dieu? Et puis, on peut aussi penser qu'est-ce qui est important pour nous? Est-ce que on voit bien que on parle beaucoup aujourd'hui de starisation. Le rêve de beaucoup de jeunes, c'est de devenir une star. Et qu'est-ce qui est beau dans la création? Est-ce que c'est une étoile isolée? Ou est-ce que c'est une constellation? Et peut-être que c'est la constellation qui est plus importante que l'étoile. Et réapprendre notre place dans l'univers pour faire partie d'une constellation, pour briller non pas parce que je suis moi le meilleur, le plus fort, le plus beau, celui qui va se faire Dieu. Non, il y a un Dieu au-dessus de nous qui a créé le monde et nous sommes, notre dignité c'est de participer à cet ensemble de la création. Voilà. Et c'est Dieu qui nous donne tout, qui nous a donné la vie, qui nous a créé et qui nous donne notre dignité. Même si D'ailleurs, même le plus vulnérable, même l'étoile qui brille peut-être le moins dans la constellation, apparemment, si elle était isolée, peut-être on l'apercevrait pas, mais dans la constellation, elle apporte sa part de lumière. Et même les plus vulnérables, même les plus faibles, reçoivent leur dignité non pas de ce qu'ils sont, non pas parce que justement ils brillent plus que les autres, mais ils la reçoivent de Dieu qui est attentif à tous, même aux plus pauvres. Et je pense que ce message, vraiment, se reconnaître créé, c'est reconnaître la dignité de tout être humain et nous reconnaître aussi dignes d'amour, même quand nous sommes fragilisés, même quand nous sentons le plus faible, le plus indigne à certains moments, mais le Seigneur nous donne par son amour notre dignité. C'est cela, au fond, réaliser que l'harmonie entre le Créateur, l'humanité et l'ensemble de la création a besoin d'être restaurée.
Voilà, et ensuite, donc, dans le chapitre 3, le pape a le souci d'aller à la racine humaine de la crise écologique. C'est d'ailleurs le titre du chapitre. Et il dénonce ce qu'il appelle la globalisation du paradigme technocratique, au numéro 106. Il dénonce ensuite ce qu'il appelle les excès de l'anthropocentrisme moderne. Il pointe avec vigueur les dérives de notre système économique et politique. Alors là, le pape a un discours équilibré. Il dit « L'homme a fait des choses merveilleuses par la science, par la technique, qui mettent à notre disposition des outils qui sont des outils merveilleux. » Mais le risque, malheureusement, il se traduit en réalité, c'est finalement de faire de tout une marchandise, de faire de tout un objet à la disposition de l'homme, de vouloir tout s'approprier. Et là, c'est certainement le cœur du message du pape, là où il pointe finalement les points sur lesquels on devrait agir pour améliorer les choses. On est là au cœur de l'encyclique. Comment résumer en termes simples la pensée du pape sur ce sujet? Et quel lien avec la question précédente, l'évangile de la création?
Alors ça, c'est une très vaste question. Hein. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, la globalisation du paradigme technocratique? C'est vrai que ça, c'est des termes qui... Et on voit bien qu'il y a une réflexion en profondeur du pape quand il emploie des termes comme ça. Le pape François n'est pas quelqu'un qui emploie des mots pour compliquer les choses, mais bien pour exprimer précisément... Oui. Ce qu'il est important de comprendre pour nous. Alors bon, comme vous disiez, il s'agit pas de stigmatiser la technique. Hein. Nous avons notre humanité a progressé dans bien des domaines et ça peut être la meilleure des choses, mais aussi la pire si finalement la technique devient la source du gouvernement de toutes les choses. Et si, comme vous le disiez aussi, l'homme veut s'approprier toute chose et finalement faire des objets avec les créatures, c'est-à-dire en faire ça, disons toutes les matières premières, les utiliser et finalement traiter tout ce qui n'est pas moi comme une matière première que je peux utiliser, prendre, jeter, exploiter, épuiser, sans se poser de questions et sans considérer l'ensemble, sans considérer d'une manière plus spirituelle le sens des choses. Et je pense que c'est un des points importants de l'encyclique, de rappeler que chaque créature qui est un don de Dieu pour nous, nous dit quelque chose de Dieu, nous dit quelque chose du sens de la vie. Et il y a quelque chose à redécouvrir pour l'homme, de ce que ce n'est pas moi tout seul qui peux découvrir le sens de la vie, le sens même de ma propre vie, mais le sens de la vie, de la cohérence du monde, de l'avenir, mais c'est en contemplant l'ensemble de la création et toutes ces réalités, en allant au-delà simplement d'une technique qui permet de s'approprier les choses, de les exploiter, d'en tirer le maximum d'énergie et de force. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on parvient à découvrir le sens des choses. Je pensais en préparant cette émission au célèbre film, enfin, il y a plusieurs films, mais Matrix, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, peut-être certains auditeurs l'ont vu, c'est un film qui a beaucoup été vu, mais c'est difficile un peu à expliquer, mais pour dire simplement, dans ce film, il y a deux types de réalités, mais elles sont toutes finalement dominées par la technique et par les machines, et donc les hommes sont soit vivent dans des sortes de couveuses pendant toute leur vie et on leur injecte des rêves pour qu'ils puissent finalement produire de l'énergie électrique à travers leur pensée, et ça constitue la source d'énergie exploitée par toute une ville de machines. Soit certains arrivent à se libérer de cette situation et vivent dans une espèce d'espace souterrain, mais qui est lui aussi entièrement technologique, et où finalement l'harmonie de la création a totalement disparu également. Donc c'est particulièrement pessimiste, et j'ai, moi mon sentiment face à ce type de film, c'est qu'on est de toute manière dans une vision de l'homme et du monde privé de cette harmonie avec la création, et apparemment définitivement dans ce film, c'est une fiction, mais définitivement privé, et il n'y a pas de vision de retrouver le sens de la création. Bon, c'est la seule chose, c'est soit on est prisonnier des machines et de la technique et du rêve, soit on est libre. Mais on cherche une espèce de liberté idéalisée, mais toujours en utilisant la technique d'une autre manière, et finalement dans un monde vide de vie. On ne voit quasiment pas de végétaux dans ce film, c'est assez terrible, et même la ville libre là de Zion, elle s'appelle, je crois, c'est peut-être une allusion à la Sion de l'Ancien Testament, la ville de Dieu, mais il n'y a pas de Dieu dans cette ville. Il y a ceux qui croient simplement à la liberté individuelle, et on vit dans un monde qui absolutise la liberté individuelle, mais qui ne retrouve pas le sens de l'autre, ou en tout cas de la peine à le trouver, de manière, même si dans la liberté individuelle on cherche aussi une relation avec les autres, et une relation la plus heureuse et harmonieuse possible, c'est pas qu'il n'y a pas d'amour, mais si on ne reconnaît pas les autres comme des dons, un don de Dieu reçu, et toutes les créatures, notre humanité est quand même profondément tronquée. Et on voit d'ailleurs dans ce film Matrix comment même l'alimentation, par exemple, et les gens qui sont libérés, ils mangent une nourriture qui est tout à fait désagréable, insipide. Enfin, c'est y a une espèce de misère de ce côté-là. Et ça fait réfléchir finalement sur tout notre rapport à la création, et qu'est-ce qu'il y a du prix dans nos vies. Est-ce que c'est avoir toujours plus de techniques, maîtriser beaucoup plus de technologies, nous libérer, être libre en utilisant, en étant les maîtres du monde, ou en utilisant la technique, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, et c'est qui est de l'ordre de la qualité du rapport aux créatures et à tout ce qu'il y a de beau et de bon dans ce monde.
Il y a un mot qui me venait en vous écoutant, c'est le mot de transhumanisme, et malheureusement on voit poindre ce rêve transhumaniste, mais ce serait un autre sujet.
C'est un autre sujet qu'il faudra sûrement traiter dans l'émission.
Alors à partir de là, après avoir posé tout ce vaste panorama un peu de notre monde, le pape décline, va faire des propositions, va nous mettre sur des pistes d'action. Il décline ce que pourrait être une écologie intégrale qui englobe la nature, l'homme, la société entière. Finalement, le leitmotiv un petit peu de la deuxième partie de l'encyclique, c'est « tout est lié ». Et le pape insiste beaucoup sur le thème de la pauvreté. Il voit dans la pauvreté un révélateur des grands déséquilibres du monde, et il y insiste beaucoup. Finalement, il dit, le signe que quelque chose va mal, c'est la misère dans notre monde, et c'est la pauvreté. Il nous dit, il n'y a pas de crise séparée, une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. Alors, écologie intégrale, qui est aussi une écologie humaine, la crise n'est-elle pas d'abord une crise de l'homme ? Je crois que vous avez déjà largement répondu à cette question.
Et puis, le pape, dans un petit livre, qui est quand même un peu épais, d'entretien qu'il vient de publier, là, récemment, avec un journaliste français, dit à un moment donné, les gens ont dit j'ai écrit une encyclique sur l'écologie. C'est pas une encyclique sur l'écologie, c'est une encyclique sociale. Voilà, et il insiste là-dessus. Effectivement, tout se tient, l'écologie humaine, l'écologie intégrale, et effectivement ce problème de la pauvreté comme révélateur profond des grands déséquilibres du monde, c'est tout à fait clair, oui. Et puis, il nous dit bien aussi que la solution est aussi dans l'homme, et non pas dans la disparition de l'homme, ni dans la sélection d'une race pure d'hommes qui serait davantage maître de la situation, mais la solution est dans le cœur de l'homme.
Et s'accepter humain, c'est accepter aussi nos limites.
Tout à fait.
N'est-ce pas une caractéristique de l'homme si nous voulons rester humains? Et le pape nous invite à changer de style de vie. Alors cette idée de style de vie est intéressante. Et en même temps, il y a de très belles pages sur l'éducation, la spiritualité écologique, la conversion écologique même. Et donc, là on peut se poser des questions très, très, très concrètes. Comment l'Église de France a-t-elle reçu cette encyclique? Et est-ce qu'elle, je crois qu'elle a déjà proposé quelques initiatives, comment elle s'inscrit justement dans ce courant de Laudato Si?
Alors d'abord, l'Église de France a reçu avec joie cette encyclique, parce que c'est vraiment un message lumineux, ça vaut la peine de la lire, et de l'étudier, de la relire, de méditer sur beaucoup de paragraphes, parce que ben justement le pape nous invite à une conversion, donc il faut bien pour se convertir, il faut du temps. On pense souvent aux conversions brutales des gens qui se sont convertis comme tel poète derrière un pilier à Notre-Dame de Paris, et puis voilà, et tout change du jour au lendemain, mais dans la vie chrétienne on sait que la conversion c'est tous les jours. Et alors pour des choses très concrètes, l'Église de France a proposé par exemple le label Église verte pour les paroisses notamment, pour les groupes d'églises. Et pour cela, il propose un cheminement en quatre étapes. La première, c'est de constituer un groupe, même un tout petit groupe, pour mener cette démarche, et en lien avec les responsables de la communauté, donc si c'est une communauté religieuse ou si c'est une paroisse, enfin voilà, de faire quelque chose au cœur de l'Église, pour pouvoir, ce petit groupe doit procéder à un éco-diagnostic, voir dans notre communauté, voilà, qu'est-ce qu'on consomme, comment, etc. Et puis la deuxième étape, c'est il y a sur le site Église Verte, donc qu'on peut trouver facilement sur Internet, on a donc des questions pour remplir cet éco-diagnostic, et ça permet à la communauté de prendre conscience de ce qu'elle fait déjà, de commencer à discerner les actions qu'elle peut mettre en place. Puis la troisième étape, c'est de l'envoyer donc ce diagnostic au site Église Verte, en précisant les deux ou trois actions décidées pour améliorer les choses, et pour recevoir en retour le label donc à afficher dans la communauté, dans la paroisse, précisant le niveau atteint par la communauté et l'année au cours de laquelle ce label a été délivré. Puis ça peut progresser. Voilà, l'étape 4, c'est de progresser en re-remplissant chaque année le questionnaire, et petit à petit on voit les nouvelles actions à mettre en œuvre, voilà, franchir des différents niveaux, et donc ça permet de progresser, de se voir progresser dans le domaine de notre comportement écologique. Donc c'est on rentre dans le concret de la conversion, et on voit bien que c'est pas en un jour qu'on peut changer nos habitudes. Voilà. Ici dans le diocèse, je crois que pour l'instant il n'y a pas encore de paroisse qui soit entrée dans cette démarche-là formellement, mais il y a pas mal de petits efforts qui ont été faits. Et puis vous savez que l'encyclique Laudato Si est sortie juste au moment où j'étais nommé évêque de Cahors, et quand je suis arrivé, le premier message qui a été publié sur la lettre d'info du diocèse, donc j'avais un message écrit que j'avais rédigé, c'était sur l'encyclique Laudato Si. Donc c'était une manière aussi d'inviter à entrer vraiment dans la lecture et dans la mise en œuvre de cette réflexion. On a essayé dans le, ici au niveau du diocèse, à certains niveaux, d'utiliser du papier recyclé. On a installé dans le jardin de l'évêché un composteur pour les déchets végétaux, faire un peu de tri. On fait, voilà, ce que beaucoup de gens font déjà aussi, et bon, mais on ne le faisait pas encore. Voilà, personnellement, j'essaye aussi d'utiliser, quand je me déplace, chaque fois que c'est possible, du covoiturage ou le train, ou même de circuler parfois à vélo. Et je pense que chacun de nous peut faire des petites choses pour l'air de rien. Ça change aussi notre rapport au monde, de chercher des comportements un petit peu différents et très pratiques, très pratico-pratiques. Ça n'exclut pas de réfléchir sur le fond de notre relation au monde et aux autres, hein, mais trouver des petits comportements, des petits efforts que l'on fait au quotidien. Je crois que c'est aussi de cette manière-là qu'on se convertit.
Tout à fait. Merci, Père Évêque, pour cette approche de Laudato Si, ces éclaircissements que vous nous avez donnés. Alors, je le disais, cette émission ouvre un cycle. Donc, nous aurons trois émissions complémentaires pour entrer un peu plus avant et un peu plus en détail dans cette encyclique. La prochaine émission sera diffusée le 8 décembre et elle aura pour thème « L'urgence de prendre soin de la Terre, la maison commune que Dieu nous a donnée ». Merci, Monseigneur.
Merci, Bernard.
Merci à tous.
Notre bien commun. Votre émission sur la doctrine sociale de l'Église.